Bonjour, il est 14h sur les ondes de Radio Galère à Marseille, 88.4 et sur internet à radiogalère.org. Et on vous retrouve, comme chaque mardi désormais à 14h, pour une nouvelle chronique hebdomadaire des carnets de Comaguerre. Et on retrouve bien entendu Roselyne en cabine, que je salue, que je remercie, bonjour. Et Habib, toujours fidèle. Voilà, qui nous apporte des effluves moyen-orientales. Merci, bien entendu, ça arrive. Et bien entendu, je vais vous parler, parce que ça devient l'actualité centrale, et c'est même en train d'agglomérer toute l'actualité internationale. C'est pas que je ne vais pas aborder d'autres questions, mais en fait, tout tourne désormais autour de la guerre, et la guerre qui est double, c'est-à-dire on avait la guerre ukrainienne, mais on voyait un petit peu de loin, et puis là, on a une guerre qui est vraiment préparée, où tout le monde s'implique militairement. Je veux dire qu'on est passé tout d'un coup avec donc la guerre contre Gaza, la guerre contre les Palestiniens lancée par le régime israélien, on est passé à une guerre où les gros moyens militaires des grandes puissances sont déployés sur le terrain. Donc là, on a un vrai changement du niveau de l'engagement des uns et des autres. Alors, l'engagement des États-Unis, il a pris deux formes. Il a pris la forme immédiate opérationnelle de deux porte-avions avec deux forces, puisque autour de chaque porte-avions, il y a ce qu'il faut de petits bateaux d'accompagnement, de sous-marins, etc. Bon. Et puis, un engagement financier considérable là aussi, c'est-à-dire que Israël est protégé par son plus grand ami, qui l'a protégé de toutes les façons possibles et imaginables depuis 1948. Mais là, il y a une manifestation de puissance avec donc deux porte-avions, les flottilles qui vont avec, et on imagine tous les sous-marins, toutes les bombes atomiques qui vont avec. Ça, c'est la présence militaire des États-Unis. Officielle, elle n'est pas masquée. D'ailleurs, comment masquer un porte-avions? C'est pas possible. Donc, avec un porte-avions qui circule, tout le monde le voit, y compris quand il traverse le canal de Suez, même quand les gens ne le voient pas. Je me souvenais à cette occasion qu'il y a quelques années, on avait annoncé que les porte-avions chinois venaient de passer le canal de Suez. Alors, j'avais ri à l'Andes parce que j'avais dit, vous savez, les Chinois, ils ont un porte-avions, qui est un porte-avions vieux qu'ils ont racheté en Ukraine et qui sont en train de moderniser, ils en ont qu'un et ils ne l'ont pas envoyé parce qu'il n'est pas opérationnel. Et donc, quand la presse occidentale annonçait les porte-avions chinois viennent de passer le canal de Suez, on se moquait carrément de nous. On faisait peur avec... voilà, c'était un épouvantail. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc là, les deux vrais porte-avions, ils y sont. Ça s'accompagne effectivement d'une annonce tout à fait claire de la part du président de la Russie, consistant à dire « je mets en état d'alerte la chasse », donc les chasseurs bombardiers les plus puissants de la Fédération de Russie, et ils sont équipés de missiles Kinzhal. Les missiles Kinzhal, donc, sont des missiles supersoniques à 9 qui peuvent voler à 9 fois la vitesse du son. Ce qui veut dire que depuis, alors ils patrouillent pas au-dessus de la côte israélienne ou de la côte syrienne, ils patrouillent au-dessus de la mer Noire, mais ils sont en capacité, depuis l'endroit où ils patrouillent, d'envoyer à la vitesse de Mach 9, 9 fois la vitesse du son, un missile sur n'importe quel navire, y compris un porte-avions des États-Unis, en 6 minutes. On est à ce niveau-là de jeu militaire. Le jour où, si jamais ils décidaient de dire « on arrête, il faut absolument qu'on fasse comprendre aux États-Unis que nous ne voulons pas la guerre et on peut leur détruire un porte-avions, car s'il s'agit de missiles hypersoniques sur lesquels les porte-avions n'ont pas du tout de moyens d'intervention, et donc la Russie est aujourd'hui, avec ces missiles-là, en capacité de couler un porte-avions américain ». Alors là, on est dans la guerre généralisée, si ça arrive, hein, mais simplement le fait que Poutine ait annoncé qu'il mettait en opération ses chasseurs dotés de ces missiles-là, ça veut dire « je suis prêt à tout ». Et pourquoi moi je suis prêt à tout? Parce que vous-même, vous manifestez, c'est vous qui envoyez deux porte-avions, c'est vous qui envoyez tout ce qu'il y a autour, et donc moi je suis prêt à riposter. Je ne veux pas que vous utilisiez les porte-avions, ni un assaut de 2000 marines sur Gaza, hein, avec tous les morts, alors il n'y en aurait peut-être pas assez, il y en a déjà bien assez comme ça, hein, donc ne faites pas ça. Et je vous préviens que si vous faites ça, j'ai la capacité de réponse et vous ne pourrez pas vous opposer à ma riposte. Réfléchissez bien. Mais on en fait là encore toujours, et on le connaît à force, un joueur rationnel, c'est-à-dire qui dit, voilà, il y a ce risque-là, je préviens ce risque en prenant telle et telle mesure pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça. D'un autre côté, si vous devenez fou, si vous faites la folie, vous me condamnez à utiliser la riposte. Hein ? Mais c'est vous qui ferez la folie, c'est pas moi. Moi, je vous ai dit, je ne veux pas et je suis en capacité de m'opposer. Si vous le faites, on est en dehors du jeu rationnel, c'est-à-dire on est dans une espèce de saut dans l'inconnu. C'est pas le saut dans l'inconnu uniquement de M. Biden et M. Blinken, c'est le saut dans l'inconnu du monde occidental. Attaquer Gaza, attaquer Israël, attaquer la Palestine plutôt, c'est un jeu extrêmement dangereux. Simplement, la Russie dit « je suis prêt ». Et pour dire qu'elle est prête, elle est accompagnée. Alors ça ne s'est pas dit comme ça, mais ça s'est sûrement décidé à Pékin la semaine dernière. La Chine a envoyé 5 ou 6 petits bateaux de sa flotte. Alors, la flotte chinoise, il faut savoir que numériquement, en nombre de bateaux de guerre aujourd'hui, la flotte chinoise est de très loin la plus importante du monde. Alors, ils ont moins de porte-avions, ils en ont un premier, j'ai rappelé, donc qui était un vieux porte-avions qu'ils ont rénové, ils en ont construit un deuxième tout seul, et ils sont en train d'achever le troisième. Donc, ils se dotent du flotte de porte-avions. Mais ils n'ont pas attendu d'avoir cette flotte de porte-avions pour avoir une flotte très, très développée, pour patrouiller autour des côtes chinoises et pour pouvoir l'envoyer, effectivement, faire des manœuvres ici ou là. C'était le cas. Donc, il y avait 5 ou 6 navires, de la taille des frégates, navires petits ou moyens, qui faisaient des manœuvres dans le golfe d'Oman et qui sont en train de s'approcher de la zone de combat. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas pour eux, la Chine ne dit rien, elle ne dit pas qu'elle va intervenir, elle ne fait pas le même type d'annonce que la Russie, mais elle dit « je suis là, je saurai tout, et éventuellement j'interviendrai si c'est nécessaire, mais je ne laisserai pas faire sans bouger ». C'est ça que ça veut dire.
C'est l'équilibre des forces.
C'est l'équilibre des forces, tout à fait. Et puis une présence réelle et puis une capacité à voir ce qui va se passer, à pouvoir identifier un missile qui est tiré ici ou là dans une telle ou telle direction. C'est effectivement, on est sur un champ de bataille. C'est bien ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. La Palestine est devenue un immense champ de bataille mondial.
Et c'est important.
Et c'est ça qui est décisif.
Oui, oui.
Et ça, on nous le dit pas encore suffisamment, mais le fait que le petit Macron soit allé faire un petit tour en Israël, ça veut dire qu'il sent bien que c'est là qu'il va y avoir la bagarre. Et comme toujours dans la cour de l'école, quand il y a une bagarre, il y va parce qu'il veut participer. Bon, ça nous pose. Enfin, le Charles de Gaulle n'ira pas se promener en Méditerranée orientale, il se passera rien. Mais il veut être dans la partie. Il veut être un grand chef de guerre, alors qu'il est un petit chef de guerre parmi les grands. Mais c'est une façon de se manifester. Je ne m'étale pas plus là-dessus. Ça ne mérite rien.
Non, hein,
ça ne mérite rien, si ce n'est un témoignage de son espèce d'activité fébrile pour se rendre important. Il n'est pas important. C'est tout. C'est ça qu'il n'a pas compris. C'est ça que les Français devraient comprendre une bonne fois pour toutes. Donc voilà le panorama de la guerre. Il est en place. Guerre mondiale. C'est-à-dire que si on ajoute à ça l'Ukraine, où on n'avait pas encore cette proportion-là d'une guerre mondiale en cours, c'était encore... Pour certains de ces aspects, c'était encore un conflit ukrainien. Alors même si c'était l'OTAN qui prenait les décisions, même s'il y avait des officiers otaniens, s'il y avait des renseignements otaniens, s'il y avait tout ça derrière, il y avait encore des troupes qui plus ou moins obéissaient au gouvernement de Kiev. Là, quand on a 2 porte-avions états-uniens, la flotte britannique qui ne doit pas être loin, là, on a tout autre chose. On a la scène de la guerre mondiale future en préparation. Je ne sais pas si elle aura lieu, mais c'est une des rares fois, ça fait quelques années qu'on fait des émissions comme à guerre, je me suis rarement senti aussi près, enfin moi pas personnellement, mais j'ai rarement senti le monde environnant aussi près d'une escalade militaire très grave. Et il a fallu que ce soit le cas d'Israël qui déclenche tout. Et ça amène à réfléchir. Comment se fait-il que le cas très particulier de ce pays de quelques millions d'habitants mette en branle la totalité de la communauté internationale, avec d'énormes moyens de destruction massive ?
C'est pour bien maîtriser le Moyen-Orient.
Voilà, exactement.
Et c'est des bases américaines. Hein.
Voilà.
C'est,
bon. Alors, il s'agit effectivement de maîtriser un secteur où, jusqu'à présent, le camp occidental, pour faire simple, donc les États-Unis, beaucoup la Grande-Bretagne, un peu moins la France, qui en plus a eu, selon les périodes, des attitudes très très différentes du reste du camp occidental. Je fais référence, il y a beaucoup été fait référence ces derniers jours à la position de De Gaulle sur la guerre des Six Jours, hein, où effectivement la France avait une politique arabe et avait une distance par rapport à la politique anglo-saxonne dans ces régions-là du monde. C'est une politique arabe qu'on a encore vu ressurgir d'une certaine façon sous Chirac, au moment de l'attaque de l'Irak, au moment où la France aidait Saddam Hussein, ce qu'elle a fait aussi avant, pendant la guerre contre l'Iran. Bon, tout ça fait qu'il y avait une certaine originalité de la France qui, depuis les trois derniers présidents, Sarkozy, l'Américain, le premier, Hollande, le deuxième Américain de service, et Macron, le troisième Américain de service, il n'y a plus de politique arabe. C'est une espèce d'agitation qui amène Macron à aller faire le malin quand il y a un attentat sur le port de Beyrouth, souvenez, tout ça. Bon, ça, c'est pas intéressant, et il n'y a aucune autonomie, c'est-à-dire que la France est un jouet dans ce jeu occidental.
Oui.
La France, ses habitants, sa richesse, sa population, éventuellement, qui sait même, ses soldats. Pour l'instant, il n'y a pas de soldats annoncés, mais il y a sûrement des forces spéciales qui traînent ici et là et tout. Hein. Et puis des avions. Il y a un navire de guerre français qui est en observation au large de la côte israélienne. Simplement, paraît-il, pour compter les points, mais il est là. Et éventuellement, je pense que ce navire a des capacités quand même militaires non nulles. Il peut tirer un certain nombre de missiles. Mais c'est très modeste. C'est rien à côté de deux porte-avions et tout ce qui va autour. Parce que, outre les deux porte-avions, il y a un porte-hélicoptère des États-Unis qui s'appelle le Bataan, et qui, lui, est en capacité de projeter, comme on dit, puisque j'utilise le vocabulaire militaire qui est cru, mais projeter, ça veut dire mettre sur la plage 2000 marines avec tout l'armement nécessaire et aller détruire les Gazaouis en masse. Alors, ils sont déjà largement détruits, mais si vous mettez 2000 marines avec un appui par hélicoptère, avec un appui depuis les navires de guerre qui tirent, vous avez une scène qui équivaut à Apocalypse Now. Souvenez-vous, si vous l'avez en mémoire, moi c'est une scène qui m'a énormément frappé, cette scène où le bataillon d'hélicoptères arrive en rase-motte sur la plage vietnamienne, c'est exactement ça qui est prêt, et rien d'autre. Hein. Alors là, en plus, dans Coppola, il y a la musique, il y a les Valkyries, mais enfin, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire il ne resterait rien que des décombres, que des incendies, etc. Bon. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tout le dispositif est en place. Et ce qui est révélateur, c'est que les États-Unis ne sont jamais arrivés à ce niveau de déploiement et de manifestation de force dans aucun autre cas, même pas dans le cas de l'Ukraine. Et Israël a cet avantage, si j'ose dire, particulier, que les États-Unis sont prêts à faire des horreurs pour défendre ce petit pays. Au point qu'on se demande qui gouverne à qui. Est-ce que c'est Israël qui gouverne les États-Unis ou est-ce que c'est les États-Unis qui gouvernent Israël ?
Réciproquement.
Alors, oui, réciproquement. Et alors, une partie de ce qui jouera, c'est effectivement dans l'articulation entre les deux. L'articulation qui, à certaines périodes, a été très forte, c'est-à-dire qu'en gros, la position de Tel Aviv, c'était la même position que Washington. Là, on est dans une situation quand même un petit peu particulière, qu'il faut qu'on tienne en prenne en considération, c'est-à-dire que la société israélienne est aujourd'hui divisée comme elle n'a jamais
c'est vrai.
Été. C'est-à-dire que les va-t-en-guerre, les pousses au crime, ceux qui sont prêts à tuer tous les Gazaouis et tous les Palestiniens de Cisjordanie, ne sont plus en majorité. Ils occupent le gouvernement, ils occupent les postes de direction de l'armée, mais une partie de la population et une partie de la classe intellectuelle, il y a des intellectuels en Israël, commence à prendre beaucoup, beaucoup de recul et ne veut pas continuer dans cette aventure-là. Donc là, on a un élément qui est... J'arrondis le sujet, mais la guerre mondiale est prête, tous les équipements sont là, tous les acteurs sont là, mais en fait, la société israélienne pour laquelle le monde occidental déclencherait la guerre, elle n'est pas nécessairement prête. Il y a à la tête un certain nombre de va-t-en-guerre, de pousses au crime, qui veulent y aller, passer leur dernière chance d'y aller, ils y croient encore, et en fait, la société israélienne ne suivra pas nécessairement. C'est là-dessus qu'il faut que nous soyons conscients, c'est-à-dire ne pas tomber dans des caricatures, les Israéliens ceci, les Israéliens cela. La situation est beaucoup plus fragile, c'est eux qu'on ne veut le croire, et beaucoup plus fragile que nos médias veulent le croire. Parce que alors, il vous arrive peut-être, moi ça m'arrive tous les jours maintenant, de recevoir des appels pour donner pour l'armée israélienne, décider ça et tout. Hein, c'est-à-dire que nos adresses électroniques sont piratées, et tous les jours on nous dit d'envoyer de l'argent à l'armée israélienne, etc. Bon. Ça, c'est le suivi. Mais tout ça traduit une espèce d'inquiétude réelle. Ça, c'est la première inquiétude politique globale. La deuxième inquiétude, elle est militaire, elle aussi. C'est-à-dire que, et là, on a un événement tout à fait nouveau. Pourquoi c'est devenu donc une préparation à la guerre mondiale ? Parce qu'effectivement, pour la première fois depuis 1948, les Palestiniens sont sortis de leur ghetto. Et ils sont sortis armés de leur ghetto. Ils ne sont pas sortis. Alors, on a tous vu des images qui nous fendaient le cœur de jeunes gens qui allaient avec des frondes à la frontière et qui prenaient une balle entre les deux yeux. Bon, ça, c'est fini. Parce qu'ils ont eu raison. Ils ont dit, on ne veut pas que ça continue comme ça. On ne veut pas aller avec des frondes et se faire tuer comme des lapins. Et donc, maintenant, on se prépare ensemble. Alors, c'est une guerre inégale, puisque c'est une guerre de libération nationale, guerre armée, avec donc de petits moyens comparés aux moyens d'Israël. Donc, il n'y a pas d'aviation en particulier, pas d'hélicoptère et tout. Mais c'est une guerre de libération nationale. Et là, on a affaire aussi à un événement qui est de taille tout à fait nouvelle. Car les guerres, les fameuses guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient depuis 48, donc 67, 73, vous connaissez tout ça, c'était des guerres des pays arabes voisins contre Israël. Ce n'était pas des guerres des Palestiniens. Alors il y avait un soutien des Palestiniens qui était plus politique, ce n'était pas les Palestiniens qui avaient décidé de libérer leurs terres eux-mêmes. Et ça change tout. Ça change tout. Parce qu'on vous dit, bon, Israël a gagné contre l'Égypte, Israël a gagné contre la Syrie. Alors c'est vrai aussi pour toute une série de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, hein, parce qu'en plus les pays arabes n'ont pas été très unis et se sont laissés diviser. Mais c'était très très différent. La situation dans laquelle on se trouve est complètement nouvelle. C'est-à-dire, c'est la population palestinienne qui a décidé de libérer son territoire de l'occupant colonial. Elle-même. Sans attendre que d'autres viennent bombarder à sa place, avec ses propres moyens, sur place, sur son terrain, dans ses souterrains, j'allais dire, dans ses bunkers, tout ça, elle l'a préparé comme une lutte de libération nationale, parce qu'une lutte de libération nationale, la France n'en a jamais vécu, enfin des temps de proche histoire, ça se prépare, on sait que de toute façon ça coûte cher en hommes, ça coûte cher parce que de toute façon on a déjà beaucoup payé en hommes avant, pour rien. Et donc, à un moment donné, on dit tout ça, maintenant, ça va coûter un homme, ça va continuer à coûter un homme, ça va coûter plus, mais cette fois, c'est la bonne. C'est la lutte de libération nationale. C'est ce qu'a vécu l'Algérie il n'y a pas si longtemps, c'est ce qu'ont vécu d'autres pays d'Afrique, pas nos colonies classiques. Donc, c'est ça l'élément nouveau. Donc, vous voyez, on a un panorama qui est très différent. Alors, ça nous écarte un peu des bulletins quotidiens qui sont bouleversant, parce que les bulletins quotidiens, c'est encore 200 enfants morts, encore 300 enfants morts, c'est épouvantable. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui joue est un phénomène complètement nouveau. C'est-à-dire, tous les grands protagonistes de la guerre mondiale sont sur place. Les Palestiniens ont décidé de se libérer eux-mêmes de la tutelle coloniale. Ça ne s'était jamais produit comme ça. Ils se sont unis entre eux pour y arriver. Ce qui est aussi une nouveauté, puisque il faut reconnaître le grand vice des sionistes, ça a été de réussir à diviser sans arrêt les forces palestiniennes entre elles depuis 1948. Et donc, en fait, là, pour la première fois, on a une union avec un objectif qui est très clair, libérer la terre nationale. Et donc, cet objectif, on y retrouve, je le cite parce qu'il faut le citer, le Hamas, le djihad islamique et deux directions du Front populaire de libération de la Palestine.
J'ajoute que la population arabe de toutes les au Moyen-Orient et même en Afrique du Nord, tout ça, sont unis.
Voilà.
C'est vrai que le pouvoir politique dans les pays arabes, on a réussi à les diviser, comme tu l'as dit plusieurs fois, mais cette fois-ci,
voilà.
Il y a des points où on ne transige pas là-dessus.
Tout à fait.
Voilà.
Et l'unité est d'autant plus facile que précisément c'est l'unité, non pas derrière l'Égypte, quand l'Égypte était en guerre contre Israël, non pas avec la Syrie quand c'était la Syrie, c'est l'unité derrière le peuple palestinien uni dans sa résistance.
Ouais.
Donc là, ça ne se discute pas. Ça se discute. On est solidaire avec la libération nationale palestinienne.
Et je voudrais dire aussi que c'est vrai que le Hamas a été manipulé pendant certains temps, mais cette fois-ci, non. Le Hamas est bien organisé. C'est une organisation avec le djihad islamique et tout. Ce n'est plus la même chose.
Tout à fait.
Et ils savent très bien qu'ils vont, c'est vrai, dans cette lutte, ils vont perdre beaucoup des êtres humains. Ça, c'est sûr. Voilà.
Mais on retombe effectivement dans toutes les libérations nationales, les guerres de libération nationale, où il y a un moment donné où la population dit « il ne reste que ça comme possibilité, la lutte armée, c'est par là qu'il faut en passer ». Et plutôt que de mourir et tirer à la frontière quand on lance des pierres avec des frondes, hein, on décide de passer au combat. Et c'est ça qui bouleverse tellement, et c'est ça qui rend bouleverse tellement nos chefs d'opinion occidentaux, et c'est ça qui énerve Dupond-Moretti quand il fait ses circulaires idiotes, c'est ça qui énerve les préfets quand ils interdisent les manifestations, c'est qu'ils ne veulent pas voir le changement de dimension du problème. Ils ne veulent pas le voir parce que ça leur rappelle quoi ? Ça leur rappelle, en particulier pour ceux d'entre eux qui ont de la mémoire, et pour les politiques français qui ont de la mémoire, la lutte de libération nationale de l'Algérie.
Oui.
Parce que c'est ça qui s'est passé. À un moment donné, on décide d'y aller parce que ça suffit. On a raté d'autres coups avant. Je rappelle que les émeutes de 1945, à partir du 8 mai à Sétif, ont raté. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts d'Algériens assassinés par l'armée française parce que ce début d'insurrection nationale avait raté. Et puis, on est passé donc de 1945 à 1954. Il a fallu 9 ans pour que ça se prépare profondément. Et puis finalement, la lutte de libération nationale a commencé. On ne sait jamais, personne n'est capable de maîtriser ces délais-là. Et ça dépend de la population, de ses moyens, de ses appuis, de l'argent qu'elle peut recevoir ici et là, ça arrive aussi, des formations militaires qu'elle peut trouver ici et là, de l'armement qu'elle va trouver. Bon, on sait par exemple que dans le cas de la révolution algérienne, l'apport de l'ANC sud-africaine a été important dans la formation des hommes, dans la formation au combat, parce que l'ANC menait elle aussi sa lutte de libération nationale. Et quand on était deux pays, même aux deux opposés du continent africain, on échangeait des modes de travail, des façons de faire, et on entraînait des combattants de la même façon. Bon, tout ça, ça a joué. Ça, alors, c'est chaque lutte de libération nationale qui est particulière.
J'ajoute que Yasser Arafat, qui est parti à... comment elle appelle,
en Tunisie.
Oslo.
Ah, Oslo.
Oslo, où il a fait la préparation pour la paix.
Les accords d'Oslo.
Les accords d'Oslo. Je me rappelle, Hafez al-Assad, il lui a dit, ne partez pas tout seul. Voilà. C'est une erreur politique, et vous verrez. Et c'était vrai. De la même manière, Mahmoud Abbas, qui a voulu lutter pacifiquement, maintenant, il se trouve que vraiment... on le rejette complètement. Tous les Palestiniens pratiquement rejettent Mahmoud Abbas. Je l'ai dit sur cette antenne.
Tout à fait. Voilà. Il le rejette parce qu'il le considère comme complice du régime israélien.
Exactement, du régime israélien, oui.
Et ils savent ce qui est vrai, c'est que parce que les Palestiniens sur place ont pu le constater, qu'il y a une espèce de police qui a été payée par l'occupant, qui est destinée à neutraliser les militants indépendantistes, qui a freiné la lutte de libération nationale. Donc, il est un traître à la cause, à la limite. Hein. Bon, alors, comment ça se réglera alors ? Dans ces cas-là, peut-être il va se rallier, d'ailleurs.
Il a commencé par se rallier.
Voilà. C'est ce qui va se faire. Et pourquoi c'est la première fois qu'il se rallie ? Parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'il voit que c'est la lutte de libération nationale, la bonne, qui a commencé.
Moi, je peux vous dire que tous les Palestiniens rejettent Mahmoud Abbas.
Bien sûr.
Ils le rejettent complètement. Ils lui ont dit « démissionne ».
Oui, tout à fait. Oui, c'est pas la première.
De toute façon, il a 91 ans, ce mec. C'est bon. Voilà. Voilà.
Et il aurait dû, alors, pour rester à la tête de l'autorité palestinienne, je rappelle qu'il aurait dû se présenter à des élections, ce à quoi il s'est refusé, ouais. Ce qui est déjà un très très mauvais signe. Ça veut dire « je veux rester à la tête de l'organisme qui travaille avec l'ennemi et en fait, je me soumets pas à l'élection. Donc je risque pas de les perdre puisque je me présente pas ». Donc tout ça, c'était pour vous brosser, parce qu'on ne peut pas le faire. Enfin, c'est les émissions quotidiennes que vous pouvez entendre ici et là ne donnent pas une vision d'ensemble. Donc conflit de taille mondiale, où toutes les grandes puissances sont impliquées de façon diverse, et conflit totalement nouveau sur la terre palestinienne, parce que c'est le début de la lutte de libération nationale, et ce n'est plus comme les guerres précédentes, des guerres avec les voisins. Au point d'ailleurs que les voisins, on l'a noté, et tu l'as noté sûrement, les voisins ont complètement changé d'attitude.
Ah oui, c'est fini. Ouais.
Parce que quand il s'agissait...
Même l'Arabie Saoudite.
Mais oui, voilà. Oui, encore pire.
Les Émirats. Hein.
Mais quand il s'agissait juste pour l'Égypte de dire « Allez, je fais la guerre à Israël », c'était l'Égypte qui faisait la guerre à Israël, qui prenait ses risques, qui pouvait y perdre du territoire, des hommes, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. L'Égypte appuie la résistance palestinienne. Alors, elle s'efforce en plus de laisser passer par la porte de Rafah un peu de nourriture, pas assez, un peu d'eau, pas assez, tout ça on a compris. Hein, mais ce n'est pas l'Égypte qui se bat là, c'est l'Égypte qui soutient la révolution armée palestinienne. Même chose pour la Syrie, même chose pour la Syrie. Et même chose pour la Jordanie.
La Syrie a payé très cher.
Voilà. Alors en plus, les alliés arabes, je ne reviens pas sur ces guerres-là, se sont divisés entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, la Syrie s'est retrouvée isolée parce que les autres avaient arrêté les frais. Bon, et donc ça lui a coûté très très cher, une partie de son territoire en plus. Bon, l'Égypte, non, puisqu'elle a réussi à récupérer le Sinaï. Hein, mais la Syrie a perdu. Et au moment où je cite le mot de la Syrie, je voulais vous rappeler une chose. C'est que dans ces pays arabes, tous les pays arabes n'ont pas eu la même attitude vis-à-vis de la création de l'État Israël. Alors ça, c'est un petit point d'histoire. Ah, ouais, mais il faut quand même se souvenir quand, en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU décide de créer les deux États, j'insiste, l'État d'Israël et l'État de Palestine. Le vote passe à une majorité simple. Alors, il n'y a pas énormément. Je crois qu'il y a 54 États à l'époque à l'ONU. Tout le monde n'y est pas. Il y a beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Mais il y a des États qui vont voter contre en disant « On est en train de mettre un abcès sur cette terre du Moyen-Orient qui va nous éclater à la figure pendant des décennies. » Qui s'oppose ? Alors, on rappelle toujours, c'est un classique de dire « Oui, mais l'URSS était pour ». Bon, et c'est vrai, je vais y revenir. Ouais, mais qui s'est opposé ? Je cite deux noms, c'est très très important, de deux pays qui, à l'ONU, se sont opposés à la création donc, des deux États et à la division donc, de la Palestine historique. Il y a eu d'une part l'Inde qui venait, alors souvenez-vous, décembre 47, on est en mai ou juin 48, l'Inde dit, oulala, la division Inde-Pakistan, dont on a encore le plaisir de récolter les effets néfastes, encore aujourd'hui, c'est mauvais. Hein. Donc évitons ça, évitons de séparer les musulmans et les autres religions, ça aussi, deuxième aspect indien, ça c'est ce qui motive le vote de l'Inde à l'Assemblée générale de l'ONU. Et puis la Syrie, elle dit non, 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 cette terre, c'est la Palestine, un point, c'est tout. Hein. Et donc elle vote contre. Mais... l'espèce d'entente qui se passe entre les États-Unis et l'URSS, puisque c'est comme ça que ça se règle finalement et que ça bascule, fait que le projet va passer. Alors, on peut dire un mot sur la position de l'URSS, c'est intéressant de la rappeler. L'URSS arrive benoîtement, avec 27 millions de morts, mais après la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'elle a vu, alors elle a deux choses qu'elle a vues. Elle a vu ce que c'était que l'antisémitisme sur le territoire de la Russie tsariste. Et ça, tous les Russes savent ce que c'est. Comment ça pouvait être horrible, comment les Juifs ne pouvaient même pas vivre dans les villes, on les parquait dans des villages ou dans des ghettos, etc. Ils n'avaient pas accès à certaines professions, ils ne pouvaient pas cultiver la terre, etc., etc. Donc l'antisémitisme, tout Russe qui avait un peu d'âge savait ce que c'était jusqu'en 1917. Et ça avait été particulièrement atroce. Il faut savoir que c'est un des pays du monde où l'antisémitisme a été le plus violent. Bon. Et puis, la deuxième donnée historique importante, c'est que c'est l'armée soviétique qui libère les camps de concentration. Et donc, ils voient, après avoir souffert de l'armée allemande, ils voient ce qu'a fait l'armée allemande ou ce que voulait faire l'armée allemande de la population juive. Et donc, ça ne peut que les bouleverser. Et c'est de là qu'ils vont tomber dans cette espèce de solution en disant, puisqu'en fait l'antisémitisme, et j'insiste beaucoup là-dessus, l'antisémitisme c'est un phénomène purement européen, qui n'a jamais eu cours dans le Maghreb, qui n'a jamais eu cours au Moyen-Orient, etc. Ouais. Bon, eh bien, on va enlever les Juifs de l'Europe, on va les mettre quelque part au Moyen-Orient, où là, ça se passera mieux.
Ou en Afrique du Nord.
En Afrique du Nord, le Maghreb et tout. Bon, ouais. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, et donc l'URSS se trompe sur l'analyse, c'est-à-dire qu'elle se trompe et elle est trompée par la première génération de dirigeants israéliens, qui lui font croire qu'ils sont pour le socialisme. Alors qu'en fait, non, il faut un État colonial, avec des aspects socialistes, les kibboutz et tout, vous connaissez tout ça, mais en fait, ils trompent. Les Golda Meir, les Ben Gurion et tout, ont trompé l'URSS sur la marchandise. Ils lui ont dit, on fait un État progressiste, etc. Non, ils ont fait une colonie. Et ils ne se sont pas arrêtés depuis. Bon. Et donc, je rappelle, c'est bon de le rappeler, que tout le monde n'était pas d'accord en 1948. Il n'y a pas eu vote unanime à l'Assemblée générale des Nations unies. Il y avait des pays qui avaient très, très bien vu le danger de la situation. Le meilleur exemple étant la Syrie, qui a tout de suite tout compris à la réalité de la chose. Voilà pour ce qui est des aspects politiques globaux. Pour bien comprendre l'engagement des États-Unis dans cette affaire, qui est très très fort, il faut savoir que les États-Unis, quand ils décident de s'impliquer dans une politique comme ça, mettent toujours d'énormes moyens financiers. Alors il faut savoir, parce que ça s'est passé la semaine dernière, et ça en dit très très long, que Biden a encore demandé au Congrès qui a voté, j'allais dire presque comme un seul homme, un peu comme un seul homme, puisqu'il se trouve que même les élus républicains qui, en fait, sont en train de préparer la campagne de Trump contre Biden, malgré tout, il ne faut pas l'oublier, ont voté pour parce que, finalement, les deux partis ont la même politique. Et donc, ils ont voté pour un supplément de budget militaire de 100 milliards de dollars, avec, je vous donne les chiffres, 61 milliards pour Kiev et l'Ukraine, quand même, parce que là, le champ de bataille est gros, puis il faut de gros moyens, et puis on n'y arrive pas. 15 milliards pour Tel Aviv, 15 milliards d'euros, c'est énorme, parce que d'habitude, les États-Unis donnent tous les ans 3-4 milliards pour la défense états-unienne. Hein. Et on a rajouté, comme ça, au passage, 7 milliards pour Taïwan. Oui. Comme quoi, tout se prépare pour la suite des événements. Ça veut dire qu'on est à un budget militaire des États-Unis qui dépasse 1000 milliards de dollars. C'est le plus gros budget du monde et de l'histoire du monde. Voilà ce qu'il y a. Alors, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement des paroles. On va défendre Israël, on va défendre Taïwan. On met d'énormes moyens. Alors ça se voit. Et alors, d'ailleurs, c'est beau comme une histoire capitaliste. C'est beau comme un camion capitaliste, j'allais dire. Quels sont les cours des entreprises qui montent à la bourse de New York? Ben, toujours les mêmes. Lockheed, Raytheon, General Dynamics, tous les marchands d'armes. On annonce 100 milliards de plus. C'est pour eux. Hein, et donc, de toute façon, ils vont vendre peut-être n'importe quoi. Ils vont fabriquer peut-être des choses pas très efficaces. Mais de toute façon, l'argent coule à flot.
C'est ça. Je voudrais que tu expliques, Bernard.
Vas-y.
L'antisémitisme.
Oui.
Il faut que tu nous expliques à l'antenne. Chaque fois qu'on parle d'Israël ou un truc comme ça, on te traite d'antisémite et on essaye de, que tu puisses plus t'exprimer.
Alors, on parle, donc l'antisémitisme, ça veut dire qu'il y a des sémites. Donc, dans la géographie des ethnies ou des populations du globe, on dit qu'il y a des sémites. Alors là, on passe complètement à côté du problème, puisqu'on classe dans les sémites à la fois les Arabes et les Israéliens.
Oui.
Bon, c'est les populations sémites.
C'est à partir d'Abraham, Isaac,
voilà, exactement,
et Ismaël.
Donc, exactement. Donc, tous ces gens-là sont des sémites. Bon, donc, déjà, au départ, ça ne fonctionne pas. Le terme est mal choisi. Il se trouve que, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas chercher, mais enfin, à un moment donné, on a qualifié le racisme anti-juif qui sévissait, je l'ai dit, énormément dans la Russie tsariste, qui sévissait en Pologne, qui sévissait en Allemagne, qui sévissait dans toute l'Europe centrale, on a qualifié ça d'antisémitisme. Bon, on aurait dû dire anti-judaïsme, mais on a dit antisémitisme. Bon. Et on est héritier de ce choix linguistique qui est un choix qui embrouille, en fait.
C'est pour ça que c'est pas clair.
Bien. Toujours est-il que cet anti-judaïsme a réellement existé. Je fais allusion aux pogroms, aux villages brûlés en Russie tsariste, en Pologne, etc. Je fais même allusion, parlons de l'histoire de France, l'affaire Dreyfus.
Oui.
C'est une affaire typiquement antisémite, où on accuse un officier juif d'avoir trahi la République. Et vous savez qu'il s'en est fallu de bien peu qu'il en meure. Bon.
Il est mort sur une île.
Voilà, en plus. Voilà. Bon. Mais il a été réhabilité et tout. Mais la France est passée tout près de l'antisémitisme mortifère. Et puis, la France a confirmé qu'elle était quand même un petit peu antisémite, donc anti-judaïque, pour être très précis. Elle a confirmé ça abondamment à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'occupation du pouvoir par Pétain. Bon, donc effectivement, ça existe. Alors, on peut dire, c'est vrai, qu'il y a eu moins de massacres de personnes juives en France entre 1941 et 1945 qu'il y a eu en Russie tsariste. Bien sûr, il y a quand même eu des déportations de masse. Il y a quand même eu la rafle du Veldiv. Il y a quand même eu la rafle du Vieux-Port à Marseille. Hein. Il y a quand même eu des centaines de milliers de familles qui ont vu leurs membres s'en aller vers les camps de concentration et les camps de la mort. Bon, donc il a bien existé. Alors, je veux bien qu'on se satisfasse d'un moindre antisémitisme ou d'un moindre anti-judaïsme en France que dans d'autres pays voisins. Bon, pas comparable avec l'Allemagne nazie, effectivement. Mais c'est tout. C'est juste un peu moins. C'est le même type de sentiment. Et il y a eu, avant, dans la période précédente, la Deuxième Guerre mondiale, des grands intellectuels, je mets d'énormes guillemets, français, qui étaient profondément antisémites et qui faisaient profession d'antisémitisme ou d'anti-judaïsme. Hein. Je parle toute l'école de Maurras, Céline, etc. Hein. Donc, il y a une vraie tradition anti-judaïque. Bon. Alors, cet antisémitisme, il sert à toutes les sauces. Et en fait, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que d'une part, c'est un antagonisme entre deux religions du livre, ou trois religions du livre, qui viennent toutes de la même source, et qui ont simplement des développements à d'autres périodes, à différentes périodes de l'histoire, le judaïsme étant le premier dans l'histoire, le christianisme lui succédant, et l'islamisme suivant, l'islam succédant au christianisme. Bon, c'est tout. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu disais sur Abraham, il y a beaucoup de points communs, puisqu'au fond, au niveau de l'Ancien Testament, on parle des mêmes personnages, et j'allais dire des mêmes légendes, hein. Car il ne s'agit pas d'histoire, soyons bien clairs. Ouais. Il s'agit bien de légendes qu'on a mis dans la tête d'un certain nombre de gens, y compris des gens, des colons, qui sont arrivés en Israël en croyant que Abraham leur avait dit de dire ça, leur avait donné leur billet, et ils sont venus. Voilà, c'est pas plus sérieux que ça. Il faut savoir que le nombre de siècles d'occupation de la terre palestinienne par des juifs est tout petit au regard de la grande histoire. Il y a eu effectivement un royaume de Judée, avec des juifs à leur tête, enfin des juifs de confession juive, hein, mais il n'a pas duré des centaines d'années. Il a disparu après. Donc on n'a pas... Il n'y a aucun, alors, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a y compris des historiens israéliens comme Shlomo Sand, celui je pense, qui disent le peuple juif n'existe pas. C'est une fabrication, on a inventé une légende disant qu'ils sortent de là et donc ils reviennent de là où ils étaient origine. Point. C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Hein. Et les juifs qui vivaient autour de Varsovie ou autour de Moscou, ils venaient pas de la terre sainte, entre guillemets, hein, pas plus que les juifs qui vivaient au Maroc ou les juifs qui vivaient au Yémen. Hein. Ça c'est des histoires. Pas plus que les juifs les plus connus. Voilà, les juifs éthiopiens, les falachas. Bon, c'était des convertis au judaïsme. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup, la conversion. On se convertissait à l'orthodoxie, on se convertissait au protestantisme et tout. C'est très courant. Bon. Simplement, ce qui reste vrai, c'est que la religion juive est restée assez faible numériquement. Elle ne s'est pas beaucoup élargie. Par contre, elle est restée très très fermée sur elle-même, puisqu'à l'indifférence des chrétiens et des musulmans, elle n'a pas cherché à s'étendre. Mais par contre, elle a essayé de garder une identité extrêmement forte et de défendre son identité. Et puis quand assez compliqué à partir de 1948, du fait qu'il y a un territoire où on a le droit d'être juif, au sens religieux du terme, ils se sont embarqués dans cette aventure. Alors, en fait, il n'y a pas d'ethnie juive. C'est ça que je veux dire. C'est là-dessus que je reprends les positions.
De toute façon, il y a beaucoup de rabbins qui ont rejeté.
Alors en plus, et c'est vrai, hein, et il y a beaucoup de rabbins qui disent mais on se reconnaît pas du tout là-dedans. Nous, on est dans les textes sacrés. Ils valent ce qu'ils valent, mais on y croit. Et ça n'a rien à voir. Et ça n'a pas été dit. Et qui sont contre la colonisation. Ils disent laissez-nous vivre. On sait aussi, ça a été dit à l'époque et ça reste vrai, qu'il y a une communauté juive en Iran qui vit tout à fait tranquillement.
Ah oui, ils ont des députés.
Qui n'est pas réprimé par le pouvoir des ayatollahs, comme on dit. Bon, donc là, on a une espèce de faux discours qui a envahi tous les journaux, toute la conscience. Alors, beaucoup de gens qui ne font pas l'histoire disent « Oui, mais on leur avait dit que c'était chez eux, ils reviennent. » Oui, mais qui leur avait dit ? Est-ce que c'est fondé ? C'est pas fondé ? En fait, tout ça, il y a un mélange.
Ben, s'ils veulent vivre en paix...
Ben, tout à fait. Voilà, en gros, ce les premiers enseignements qu'il faut tirer de cette situation, qui, alors, j'enlève rien au côté douloureux, affreux, des 1000 gosses qui sont morts, des femmes, etc., du bombardement des hôpitaux, c'est vrai, mais on pourrait, à la limite, j'allais dire, c'est triste, on pourrait revenir tous les après-midi faire une émission, on dirait la même chose.
Oui, c'est vrai.
Bon, c'est à pleurer, mais en même temps, il faut essayer de bien comprendre ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, ça n'a jamais eu lieu en Palestine depuis 1948.
Alors.
C'est-à-dire, c'est les Palestiniens qui disent « Je veux récupérer ma terre. Elle est à moi. Ça a été reconnu par l'ONU. Je veux être chez moi. » Et à partir de ce moment-là, on retombe sur une position qui a été critiquée. Je ne comprends pas trop les critiques. La position de la Russie et de la Chine, qui a été de dire « Nous confirmons que l'Assemblée générale de l'ONU de 1948 a décidé qu'il y aurait deux territoires.
Ouais. »
Et donc il doit y avoir deux territoires, c'est-à-dire deux États souverains, l'un respectant l'autre, mais l'autre ne marchant pas sur ses pieds, l'autre ne décidant pas d'incursion sur le territoire de l'autre, l'autre ne prenant pas les terres, etc. Parce que autrement, on en arrive à la situation suivante, c'est que le territoire de la Palestine a été réduit comme peau de chagrin.
Oui.
Il n'y a presque plus rien.
20% il reste.
Voilà. Ce qui veut dire que les colons israéliens avaient le sentiment, qu'ils pouvaient estimer bien fondé aujourd'hui, qu'ils y étaient presque. C'est-à-dire qu'il s'en fallait d'un dernier coup de rein pour que toute la terre palestinienne passe entre leurs mains.
Ouais.
Et c'est ça qui est en train de rater. Et tant mieux, parce que ça, ce n'est pas la justice, même internationale. Ce n'est pas le droit international. Non, il y a deux territoires, c'est tout à fait clair. Et il y a le territoire de la Palestine qui doit être constitué en tant qu'État avec les moyens d'un État. Et les moyens d'un État, ça veut dire quoi ? Eh bien, on va faire hurler ceux qui parlent du Hamas avec des trémolos dans la voix. Faire un État, ça veut dire que demain matin, s'il y a un État palestinien normalement constitué, le Hamas devient l'armée de la Palestine. Lui, et puis d'autres éléments du djihad, de la Front populaire de libération et tout. Mais au fond, quelle est la surprise là-dedans ? Je ne dis pas des énormités. Il y a toujours un moment dans les luttes armées où la lutte armée devient l'armée du pouvoir. Hein.
Ouais.
Le FLN algérien, c'était une armée illégale aussi.
Ouais. Hein.
Et en fait, à un moment donné, ils sont devenus les militaires de la République algérienne. Hein. Les Irlandais qui ont acquis leurs indépendances contre Sa Majesté la Reine britannique, ils l'ont acquis parce qu'ils se sont d'abord battus. Hein. Alors maintenant, on dira que le Sinn Féin est majoritaire à Dublin comme il est majoritaire à Belfast. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu toute une série d'étapes avant qui a fait qu'ils ont pu se présenter à les élections, les gagner sans être passés par les armes, mais ils sont quand même passés par une période de lutte armée. Et maintenant, quand on voit un député du Sinn Féin à Dublin, on ne dit pas « Ah, le vilain terroriste ». Non. Dans toutes les luttes de libération nationale, il y a un moment où on passe de la lutte de libération armée à la lutte politique classique. Et tout mouvement de libération nationale a bien un objectif politique. La libération nationale, ça ne consiste pas à tuer tous les adversaires, ça consiste à dire établir un cadre d'État où on peut vivre normalement sans s'entretuer. C'est tout, c'est ça. Mais ça ne se fait pas instantanément, et ça se fait d'autant moins instantanément que le colon ne veut pas. C'est ça. Et alors le colon israélien, dans la forme qu'il a aujourd'hui sur le territoire d'Israël, le colon israélien, il ne veut rien entendre. Hein. Et donc, les hurlements sur « c'est des animaux, on va tous les liquider et tout », c'est ça. Je ne veux pas comprendre que je suis un colonisateur. Je ne veux pas l'admettre. C'est pas vrai, c'est une erreur. Simplement, j'ai une erreur plein la tête. Vous êtes des colonisateurs. Il faut donner leur place aux citoyens de ce pays. C'est pas, hein, vous êtes trompés complètement. Mais quand c'est enquistés, enracinés dans des cerveaux échauffés qui croient absolument qu'ils sont chez eux depuis 30 siècles, etc., c'est dur de faire passer, et souvent on est obligé de passer par des formes d'affrontement violent. Mais qui s'en satisferait ? Personne. Seulement, l'histoire, elle prouve que sans des affrontements violents, le colonisé reste colonisé, c'est tout. Hélas. Alors je voulais, pour rester sur cette séquence qui est importante, vous lire un texte qui m'a paru une bonne synthèse, qui est la position du ministre cubain des Affaires étrangères, qui parle de la Palestine. Hein. Et le titre, c'est « Cuba accuse les États-Unis d'être responsables de l'impunité d'Israël en Palestine ». Le ministre cubain des Affaires étrangères a souligné que la situation actuelle est la conséquence de 75 ans d'occupation illégale, de la violation des droits inaliénables du peuple palestinien sur son propre territoire. C'est publié le 19. Le ministre cubain des Affaires étrangères souligne que la solution au conflit entre la Palestine et Israël implique l'existence de deux États, avec les frontières d'avant 1967 et Jérusalem-Est comme capitale palestinienne.
C'est vrai.
Cuba a accusé jeudi le gouvernement des États-Unis d'être responsable de l'impunité avec laquelle le gouvernement israélien agit dans l'escalade contre la bande de Gaza après deux semaines de bombardements intenses sur l'enclave. Oui, alors, effectivement, c'est juste de dire le gouvernement israélien est soutenu par les États-Unis, c'est pour ça qu'il se permet d'être aussi violent et meurtrier. Hein. Parce que s'il n'y avait pas les deux porte-avions au large, et l'argent, il n'aurait pas osé. Le ministre des Affaires étrangères cubain, donc Bruno Rodríguez Parilla, a critiqué le veto imposé par le gouvernement des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies à une résolution présentée par le Brésil qui, a-t-il dit, n'appelle même pas à un cessez-le-feu, mais seulement à une pause humanitaire à cet égard. C'est-à-dire laisser passer de l'eau, laisser passer de nourriture. Ça n'allait pas loin du tout. Ce n'est pas du tout prise de position sur le conflit. Non, ne faites pas mourir de faim des innocents. C'est tout. Bon. Même ça, ça n'a pas voté. Et M. Macron a beau aller faire le joli cœur à Jérusalem et à Tel Aviv, il a voté contre. Hein, il a voté pour la mort des Palestiniens et des Gazaouis. Hein, Monsieur Macron et sa représentation diplomatique. J'insiste parce que c'est ça qu'il faut voir. On va nous le montrer en train de pérorer, de faire de grandes déclarations. Non, il a voté pour tuer des Palestiniens, avec toutes les puissances de la France qui sont entre ses mains. Alors, je reviens sur notre ministre cubain des Affaires étrangères. Il a insisté sur le fait que Washington a utilisé 46 fois son droit de veto au Conseil de sécurité sur des questions liées au Moyen-Orient et en particulier à Israël. Et en particulier, chaque fois qu'il y a eu des tentatives de condamner la colonisation, c'est-à-dire l'appropriation par des colons israéliens de terres palestiniennes. Alors, appropriation, ça ne veut pas dire que ça se passait gentiment. Ce n'était pas un huissier qui arrivait en disant « Dites, ce monsieur est propriétaire ». Non, d'abord, les Israéliens n'avaient pas de titre propriété, donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient propriétaires. Hein. Donc, on arrivait avec des hommes armés, et puis on faisait ce qu'il faut pour écœurer le paysan palestinien. On lui coupait ses oliviers, on mettait le feu à ses champs, et on mettait le feu à sa maison. Et à un moment donné, il finissait par partir où il était mort. C'est ça la colonisation.
Deux fois, on les détruit sur sa tête.
Oui, en plus, oui, ça arrive. Bon. Donc, souvenez-vous, 46 vétos au Conseil de sécurité hein, pour empêcher que les affaires n'avancent. Donc, pour permettre à la colonisation de continuer. Ensuite, il a comparé le fait qu'en d'autres occasions, le Conseil de sécurité est prolifique dans l'adoption de résolutions qui s'opposent à l'usage et à la menace de l'usage de la force. Et cependant, dans le cas d'Israël, cela ne se produit pas. Il a attribué l'impunité d'Israël à ceux qui savent qu'il n'y aura pas de conséquences pour leurs actes. Alors, ça, il a très bien fait de le dire parce qu'on est précisément au moment où les conséquences pour les actes, il va y en avoir. Il a souligné que la situation actuelle est le résultat de 75 ans d'occupation illégale, de violation des droits inaliénables du peuple palestinien sur son propre territoire, de la politique agressive et expansionniste d'Israël. Il a appelé à une réforme du Conseil de sécurité pour le rendre plus démocratique, évidemment, et représentatif de la diversité des nations. Il a de nouveau insisté sur la proposition faite par Cuba, qui comprend des demandes d'organisation et des mouvements internationaux tels que le mouvement des non-alignés, selon laquelle la solution implique l'existence de deux États avec les frontières d'avant 67 et Jérusalem-Est comme capitale palestinienne. Il a proposé au nom de Cuba, alors il est allé loin, puisque la reprise de la 10e session extraordinaire de l'Assemblée générale. Il a dit la situation est trop grave. Bon, l'Assemblée générale a fini il y a quelques semaines. Il faut la réouvrir, hein, parce que les diplomates, ils sont payés pour ça. Il y a une Assemblée générale qui se réouvre. Ils doivent venir et on doit discuter. C'est très grave ce qui se passe. Et tout ce que j'ai dit en début d'émission confirme que c'est très grave. Il y a un engagement militaire financier à un niveau jamais atteint depuis 50 ans. Et il a appelé enfin un cessez-le-feu immédiat, en particulier après que plusieurs organisations internationales aient appelé à la fin des bombardements d'Israël sur la bande de Gaza, ainsi qu'à ce qu'il ne procède pas à l'invasion annoncée de cette enclave palestinienne. Parce qu'effectivement, là, on serait devant un bain de sang monstrueux. Alors, on n'y est pas. J'observe un peu avec certaine prudence le phénomène. Parce
je pense. Hein,
on n'y est pas parce que je pense que l'armée israélienne sait que l'opération serait extraordinairement sanglante, mais très compliquée pour elle, c'est-à-dire que la victoire militaire ne serait probablement pas au bout.
Ouais, Gaza sera un cimetière à ciel ouvert.
Il y aura un bain de sang, mais il n'y aura pas une défaite de l'armée, de la future armée palestinienne. C'est pas du tout ça parce que les Palestiniens se sont préparés à cette situation. C'est-à-dire qu'ils ont organisé, maintenant c'est connu, ça se dit, hein, ils ont organisé toute une économie souterraine où ils ont de quoi s'abriter, où ils ont de l'eau, ils peuvent fabriquer des missiles, etc. Et donc en fait, l'invasion physique de la zone nord de Gaza par l'armée israélienne serait probablement une catastrophe militaire pour Israël, qui ne s'en sortirait pas. Parce qu'ils seraient
pas... Le Hamas n'a pas tout utilisé, il est toujours aussi fort. Hein.
Tout à fait. Et puis alors, il faut ajouter qu'il y a d'autres... Alors, ce n'est pas d'autres zones de combat, il y a d'autres zones d'accrochage qui s'étendent aux alentours. Alors, j'ai parlé des soutiens politiques du gouvernement jordanien et du gouvernement égyptien à la cause palestinienne, ça c'est tout à fait clair. Mais il y a aussi des actions très concrètes des milices irakiennes, en particulier.
Qu'ils ont frappé.
Voilà. Les milices irakiennes qui sont organisées, alors elles ne sont pas encore au niveau de la résistance palestinienne, mais elles sont en train de prendre leur distance par rapport à l'occupant des États-Unis. Je rappelle que quand même, l'Irak continue à être occupé par l'armée des États-Unis. On ne dit pas. Bon, ils sont intervenus récemment, la semaine dernière, dans la zone de Al-Tanf en Syrie, où il y a effectivement une base militaire des États-Unis sur le sol syrien qui sert non pas à défendre la Syrie, mais à attaquer la Syrie et son gouvernement en prêtant la main à des groupes djihadistes soutenus et financés par les États-Unis ou d'autres. Bon. Ça bouge. Et puis, il y a tout ce qui se passe donc à la frontière sud du Liban, où là, on a pour l'instant effectivement juste des accrochages militairement très peu volumineux. Hein, c'est quelques échanges de tirs, c'est un char d'assaut attaqué, etc. Mais où manifestement, Israël manifeste de l'inquiétude parce qu'il a peur d'avoir un deuxième front. De quoi a peur toute armée? C'est de devoir se battre d'un côté à Gaza et de l'autre côté en plein nord, côté Liban. Or donc, le Hezbollah est en train de préparer le terrain doucement. Hein, en envoyant quelques anicroches.
C'est bien réfléchi.
Il est prêt. Je rappelle que le Hezbollah a quand même infligé une défaite militaire spectaculaire à Israël en 2006. Et donc, ils ont acquis une très, très grande maîtrise du terrain et du matériel et des techniques de combat dans cette zone-là du monde. Donc, on a pour l'instant simplement un signal du Hezbollah qui fait comprendre à Israël que s'il passe les bornes à côté, à Gaza ou sur le territoire de la Cisjordanie, à ce moment-là, il se passera quelque chose sur la frontière libanaise.
Et il se passera quelque chose. Il y a eu un appel de volontaires. Hein.
Voilà, tout à fait.
Du côté de la Jordanie, du Yémen.
Tout à fait. Alors, le Yémen aussi est prêt à envoyer des combattants. Alors, je rappelle que le Yémen, est organisé pour se battre, à sa disposition des maîtrises d'un certain nombre de missiles et de drones de bonne qualité qui sont, alors ça paraît loin le Yémen, mais en fait quand vous avez des missiles de 1500 km de portée, ce qui est le cas des Houthis au Yémen, ils sont en capacité de tirer sur Israël tous les jours.
D'ailleurs, il y a eu un bâtiment américain qui a intercepté...
Tout à fait. Hein. Donc effectivement, on sent bien que la guerre est prête, mais on est dans un rapport qui est très différent, c'est-à-dire c'est le soutien à la lutte armée palestinienne qui se manifeste ici et là, chez des gens qui sont déjà organisés, qui savent de quoi il s'agit, et qui sont très contents de prendre part, ou qui seront très contents de prendre part à ce combat-là. C'est-à-dire le combat de la libération de la terre palestinienne. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit et de rien d'autre.
Espérons que la sagesse...
Voilà.
Voilà, espérons qu'il y a de la sagesse et que...
Alors, c'est ça le point faible de nos raisonnements. Où sont les sages? Est-ce que ceux qui ont l'habitude de tout gagner, de ne jamais négocier, de tout écraser, est-ce qu'ils sont prêts à s'arrêter? C'est là que les mises en garde de Poutine prennent tout leur poids. C'est-à-dire, moi je suis rationnel, si vous me faites ça, je riposterai et vous savez que je vous ferai très mal, donc réfléchissez un peu. Sont-ils encore capables de réfléchir ou délirent-ils? C'est ça l'inquiétude. Alors, pas déliré, mais on pense que Biden, il veut rester au pouvoir, les États-Unis veulent rester les maîtres du monde. Ils ne sont plus les maîtres du monde, mais ils entretiennent eux-mêmes cette illusion. Je vais vous donner un élément, vous allez dire, ça n'a rien à voir. Si, vous savez qu'on dit la force des États-Unis économiques, c'est la force du dollar. Bon, vous savez qu'à Bretton Woods, en 1944, quand on définit les règles du système monétaire international, les États-Unis imposent le dollar à la planète entière en disant le dollar, voilà, il est là, mais il est gagé sur une quantité fixe d'or qu'on tient à votre disposition dans les forts à Fort Knox dans le Texas. Et donc, chaque dollar que vous nous amèneriez, on donnerait 35 dollars. Chaque once d'or, on vous donnerait 35 dollars. Bon, et ça a fonctionné jusqu'en 71 à peu près. C'est-à-dire que n'importe quel pays étranger aurait pu arriver au Texas, à Fort Knox, et dire, ben voilà, je vous amène des dollars, je veux de l'or sur la base de 35 dollars pour une once. Je vais vous dire le chiffre que vaut aujourd'hui le dollar, l'once d'or. Elle vaut 1940 dollars. Voilà. Donc vous voyez, c'est multiplié non pas par 10, par 20, mais par 200 et quelques. C'est-à-dire, le dollar ne vaut plus rien. Le dollar ne vaut que la peur que imposent les États-Unis par des sanctions, par toute une mécanique au reste de la planète. D'où l'idée, alors, qui prendra du temps, mais on a compris que c'était en cours, d'où l'idée pour un certain nombre de pays qui se veulent émergents, comme on dit, de dire il faut qu'on se passe du dollar. Cette monnaie ne vaut rien. Elle ne vaut que la menace de celui qui en est le possesseur et l'émetteur. Mais au fond, elle ne vaut presque plus rien. Il passait de 35 dollars l'once à 1933 dollars. C'est énorme. Ça ne vaut plus rien. Hein. Mais il l'impose pas par la force. Dernière chose. Bon, donc on a parlé de ce qui se passait autour. Donc côté irakien, côté jordanien, le côté yéménite. Donc là, le Yémen dit mais moi je participerai. Ils disent c'est très très clair. Si la résistance palestinienne nous demande d'intervenir, on interviendra. On est prêt et on a le matériel militaire pour et on peut toucher Israël directement depuis notre territoire. Donc on a une espèce d'engagement international à la guerre qui est très très fort. Et puis, dernière chose que je voulais souligner, mais ça c'est très très important, c'est que on a aujourd'hui une annonce. Alors vous savez que Israël n'a jamais raté une occasion de venir bombarder un petit peu dans Syrie comme ça. La Syrie ne fait rien à Israël, mais comme ça, absolument. C'est une espèce d'habitude. Une fois par mois ou une fois par semaine, Israël vient bombarder des installations syriennes. Bon, ils ont bombardé ces dernières semaines trois fois,
Alep et Damas.
Deux ou trois fois les deux plus grands aéroports civils de la Syrie. Sans aucune raison.
L'aéroport de Latakia.
Voilà. Alors ça, c'est donc trois aéroports civils qui, une première fois, une deuxième fois, ont été réparés. On rebouche les trous dans les pistes et puis la vie reprend pour l'aviation commerciale. Et puis en fait, la nouvelle qui est très très importante, qui a l'air de rien, c'est que la Russie, qui possède une base aérienne dis-le.
Non, à Latakia, par exemple, il y a... il est devenu d'ailleurs un grand aéroport. Moi, je me rappelle, j'ai visité en 2004 ou 2006 par là. C'était un tout petit aéroport. Maintenant, il est devenu un aéroport énorme où les avions, l'allié russe de la Syrie s'est installé. Et maintenant, certainement, la Russie a permis aux Syriens, comme Alep et Damas est fermé, vous pouvez utiliser l'aéroport de Latakia.
Voilà, c'est ça. Donc l'aéroport russe, défendu par l'armée russe avec les moyens anti-aériens de l'armée russe.
Ils n'oseront pas attaquer, c'est sûr.
Ils n'oseront pas attaquer. Alors la réponse des Israéliens, c'est de dire « Ah oui, mais ça va permettre aux Iraniens d'envoyer du matériel. » Peut-être, mais après tout. Pourquoi les Iraniens n'apporteraient pas un soutien à la Syrie qui a été agressée, qui est agressée régulièrement par Israël?
C'est un allié.
Exactement. Dernière chose, je le note parce que c'est très intéressant. Vous savez que Vladimir Poutine parle allemand couramment. Alors, oui, il parle allemand couramment, tout simplement parce que quand il était jeune fonctionnaire du KGB, on fait toujours rêver en disant « Oh là là, c'était un mec dangereux », etc. Bon, il était fonctionnaire du KGB, il était un brillant étudiant en droit, et il avait été embauché pour ça, comme analyste, et il avait eu la formation militaire minimale de tous les agents du KGB, mais pas plus que ça. On sait qu'au moment où la RDA est tombée, il s'est mis devant le consulat d'Allemagne où il était en poste, il a sorti son arme, et il a dit aux gens qui approchaient, ici c'est le territoire de l'URSS, vous rentrez pas. Bon, c'est tout, c'est le seul fait de guerre qu'on connaisse. Mais donc il parle bon, un excellent allemand, et il a fait un discours dans une chaîne allemande, disant, écoutez, messieurs les Allemands, vous avez produit un régime qui s'appelait le nazisme. Ça fait énormément de dégâts dans toute l'Europe, en particulier chez nous. Faites attention à ce que vous faites, vous filez un mauvais coton. Alors s'adresser comme ça dans un auditoire de masse en langue allemande, c'est particulièrement fort.
Ah oui.
Et c'était, j'allais dire, c'était nécessaire. Parce que si on s'en tient à l'orientation de l'équipe gouvernementale, elle est partie pour effectivement tenir sous une espèce d'habillage démocratique, vert, écolo, machin chose, un discours de guerre qui n'a rien à envier au discours nazi. Alors, il n'y a pas d'excès raciste, mais c'est anti-russe à 150%. Il faut faire la guerre systématiquement. Enfin, voilà ce que c'est que la politique du gouvernement allemand. Je signale d'ailleurs à cette occasion, et c'est l'occasion de le citer, que Madame Wagenknecht, qui était donc la leader du parti de gauche qui s'appelle Die Linke, a décidé avec un certain nombre de ses amis de quitter ce parti-là, qui n'est plus de gauche. Elle considère qu'il n'est plus de gauche, puisque sur les affaires importantes, comme les affaires de droit international, de guerre en Russie, de guerre en Ukraine plutôt, il n'est pas clair, de créer un autre parti à la gauche, parce qu'elle a dit, le parti Die Linke, c'est juste un parti qui sait dire, oui mais, oui mais, oui mais. Bon, et ça, qui n'avance à rien, et donc c'est parti, c'est terminé, nous partons et nous créons un nouveau parti, dont on espère qu'il sera un parti de gauche solide, et qu'il évitera que ce soit la droite allemande qui prenne la place aux prochaines élections, à la place de la majorité actuelle social-démocrate. Voilà ce qu'il fallait dire. Merci Roselyne. Merci.
Et vive la Palestine.
Et vive la Palestine libre.
Libre. Hein,
et libérée de ses colons. Voilà. On se retrouve mardi prochain. Au revoir.
Au revoir. Hop là.